Bonjour à tous. Cinéma, scénario pour un nouveau monde en l'absence du Festival de Cannes. En attendant la réouverture des salles, on parle toute cette semaine cinéma avec des cinéastes et des cinéphiles tout simplement. Le cinéma français a-t-il les moyens d'être résilient? Quelles sont les failles, les fragilités du milieu que la crise a mises en lumière? On en parle aujourd'hui avec notre invité, le cinéaste Michel Hazanavicius, président de la FEMIS, Oscar 2012 du meilleur réalisateur pour The Artist, à qui l'on doit aussi OSS 117 et Le Redoutable. Sans oublier son dernier film sorti en salle juste avant la crise sanitaire et son confinement, un film qui s'intitule Le Prince oublié avec Omar Sy et Bérénice Bejo et qui est désormais disponible en VOD. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table. Olivia Jesbert.
Et bonjour à vous, Michel Hazanavicius. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être virtuellement avec nous. Tout est un peu virtuel de nos jours. Comment vous vivez cette crise de virtualité ?
Comme tout le monde, je crois. C'est-à-dire avec des choses extrêmement positives, heureusement, et puis des choses un peu plus, comment dire, pas angoissantes, mais un peu inquiétantes, quoi, sur l'avenir, sur les autres, comment vivent les autres, comment collectivement. On arrive ou pas à vivre des changements comme ça, quoi. Mmh. Donc voilà, un peu dans des questionnements et puis dans en essayant de faire les choses, quoi. Voilà.
Et c'est pas facile de trouver des réponses. On va quand même essayer de soulever ces questions avec vous et on vous remercie d'être là avec nous au moment où la crise a commencé, où le confinement a été décrété. Vous aviez un film en salle, Le Prince oublié. Aujourd'hui, il est disponible en VOD. Est-ce que ça a été un choix, une volonté de votre part d'accélérer sa sortie autrement, de permettre qu'il puisse être vu en tout cas autrement qu'en salle, puisqu'il a eu un mois peut-être de durée de vie dans les salles, ce qui est déjà bien, mais qu'il n'a pas pu non plus voyager comme il aurait dû.
Il a eu un petit peu moins, je crois qu'on devait être en troisième semaine, il me semble. Est-ce que c'était un choix d'aller en VOD ? Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis c'est un assez gros film, c'est un film pâté, si vous voulez, les décisions sont prises... Je suis pas décisionnaire, je suis pas producteur du film. En revanche, on me pose la question et évidemment, j'ai dit oui, quoi. Mais donc c'est un choix. C'est pas un grand choix de ma vie, quoi, si vous voulez. Mais j'ai accepté, bien sûr. Ouais.
En tout cas, vous n'êtes pas ouvertement opposé pour que cette chronologie des médias soit accélérée, que la sortie en VOD du film puisse être acquise. C'est votre premier film familial pour vous, Michel Hazanavicius. C'est un genre que vous avez toujours aimé.
Oui, parce que j'ai des enfants, j'ai pas mal d'enfants, enfin j'en ai 4. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça. On regarde ensemble des films. J'essaye évidemment de varier les plaisirs et je leur montre des films des classiques et plein de trucs. Mais c'est vrai que regarder des Adam Sandler, regarder des Disney, des Pixar, vraiment ce qu'on appelle les films familiaux, c'est un autre plaisir, c'est une autre gastronomie, quoi, si vous voulez. Et comme spectateur, j'aime vraiment ça, ouais.
Quels grands films du répertoire familial comme ça vous ont aussi guidé, ont nourri votre imaginaire à vous et ce film-là?
Vous voulez dire moi quand j'étais petit en tant que spectateur ou sur ce film-là?
Ouais, quand on parle des films familiaux, de ces films populaires aussi qui s'adressent aux familles, à quel grand film du répertoire ça vous fait penser, vous?
Ceux qui ont vraiment révolutionné l'affaire, c'est Pixar. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait des films réellement familiaux dans le sens où ça s'adresse aux petits, mais il y a toujours 1, 2, 3 autres niveaux de lecture qui fait que l'adulte qui accompagne ses enfants prend du plaisir au film. Donc voilà, donc c'est pas du tout pour mettre Le Prince oublié dans cette famille-là, mais de fait, ils ont changé la donne, quoi. C'est-à-dire qu'on fait, s'il y a plus les films pour les enfants qui excluraient les parents, ou des films faussement pour enfants qui seraient que pour les parents. C'est-à-dire il y a vraiment la nécessité de donner un spectacle pour toute la famille réellement. Donc je dirais que les champions, c'est quand même Pixar.
Voilà. Le Prince oublié avec Omar Sy et Bérénice Bejo, extrait de la bande-annonce.
Il est l'heure d'aller se coucher là. Et vite, sinon il va être trop tard pour l'histoire.
Alors on était où déjà ?
Chaque soir, au moment de l'endormir, le père de Sophia devient le prince d'un monde merveilleux inventé pour elle.
Début de l'histoire dans 2 minutes.
Et chaque soir...
J'arrive, princesse !
Le prince sauve sa princesse. Jusqu'au jour où...
Comme on n'a pas d'histoire.
Papa, j'ai 11 ans. Je peux me les faire toutes seules, mes histoires, maintenant. Tu comprends ?
C'est la fin, mon pote.
Bonjour.
Le prince oubliait l'histoire d'un père confronté à la dure réalité de voir sa petite fille grandir avec l'entrée au collège, fini les histoires de princes et de princesses avant de s'endormir. Tout ce monde imaginaire qu'ils avaient bâti ensemble s'effondre, décors, accessoires, figurants et surtout acteurs principaux, tout ça au placard. Comme dans l'imaginaire du père, joué par Omar Sy, Michel Hazanavicius, vous avez, on l'imagine aussi, une part... d'épique en vous. Comment vous faites-vous pour vous évader ? Est-ce que vous vous racontez vos propres histoires ? Est-ce que vous préférez regarder ou écouter celles des autres ?
Alors moi, mon métier me permet plus exactement d'inventer des histoires et puis de les concevoir vraiment dans le moindre détail. C'est-à-dire il y a un truc un petit peu de psychopathe là-dedans. C'est-à-dire que ça dépasse le côté du jeu. Dans tous les cas, le jeu prend une dimension un peu monomaniaque. Mais du coup, c'est vrai que pour l'imaginaire, c'est génial parce que ça vous fait partir, vous faites des recherches, etc. C'est un vrai jeu. À l'échelle, à grande échelle. Après, j'adore aussi plonger dans l'imaginaire de quelqu'un. Regarder des films, lire des livres, écouter de la musique, c'est à un moment donné se laisser emporter par l'énergie, la dynamique de quelqu'un d'autre qui vous fait une proposition. Et c'est un autre plaisir, si vous voulez. Vous n'êtes pas vous aux manettes, mais c'est hyper agréable de se laisser guider. Moi, j'adore ça, ouais, bien sûr.
Et de créer ces images aussi, de se faire son propre cinéma. Est-ce que cette période très particulière qu'on vit en ce moment, elle peut inspirer le réalisateur, le cinéaste, le scénariste que vous êtes? C'est Christophe Honoré dans un entretien donné au quotidien Le Monde qui disait que lui, il s'est surtout senti enfermé, empêché, que cet événement était pas du tout créateur, en tout cas, comme beaucoup avaient l'air de le dire. Est-ce que vous l'avez vécu comme tel ou est-ce que de cette situation quand même, vous voyez une source d'inspiration, Michel Hazanavicius?
Alors une source d'inspiration directe, à part faire un film où tout le monde a des masques, qui pourrait être assez drôle, mais en source d'inspiration directe, non, pas vraiment. Mais encore une fois, comme je vous disais, quand vous avez des enfants et des enfants qui vont à l'école, le confinement, ça a été quand même une espèce de surcharge de travail énorme. Enfin, tous les gens qui ont des enfants savent de quoi je parle, je pense. Après, moi, j'avais la chance, disons, d'avoir des choses à finir. Donc, j'étais quand même dans des dynamiques de travail qui ont fait que j'étais pas devant une page blanche en me disant « qu'est-ce que je vais faire de cette histoire ?» Je finissais les trucs que j'étais en train de faire. Donc, le problème s'est posé un petit peu différemment. J'imagine, de toute façon, que c'est des événements qui vous bougent de... plus ou moins profondément, plus ou moins consciemment, mais il y a un endroit où ça va, où les choses ressortent, quoi. Parce que c'est pas, je crois que ce qu'on a vécu, ce qu'on est en train de vivre, et même sans doute ce qu'on est au début de vivre, c'est pas anodin, quoi. Donc oui, il y a quelque chose qui va ressortir. Ça, j'en suis persuadé. De quelle manière, je ne sais pas. Après, on se pose aussi des questions en termes de production, c'est-à-dire on se dit. Bon, qu'est-ce que je peux faire qui serait rapide, qui serait c'est plus sur une énergie de production que je dirais que le truc est plus stimulant, de se dire voilà, un huis clos tourné en 4 semaines, pas beaucoup d'argent, comment je peux faire pour voilà, c'est plus ce type de choses là que ça me met en branle chez moi.
Et vous avez trouvé la solution? Vous avez encore, pu ou vous pourriez pistes. Faire quelque chose?
Ouais, j'ai des pistes, ouais. mais j'ai rien du tout de figé, mais il y a des trucs qui sont excitants, ouais.
Tout ça nous a un peu tous et vous sûrement arrêté dans un moment. On l'évoquait là, il y avait la sortie du film Le Prince oublié, peut-être d'autres projets dont un livre dont on va parler qui était en cours aussi. Mais on pense à tous vos collègues, confrères, réalisateurs qui étaient en tournage, qui ont dû être interrompus dans un moment comme ça, ou qui s'apprêtaient à tourner, puis finalement, paf, arrêt à ce moment-là. C'est une drôle de période, on imagine aussi repenser tournage dans les conditions habituelles en ce moment. C'est compliqué, voire impossible.
Non, c'est pas impossible. Enfin, c'est pas impossible parce que, en fait, quand vous êtes à échelle humaine, vous trouvez des solutions. Le problème, c'est de trouver des solutions collectives et des solutions structurelles, quoi. C'est-à-dire des politiques à grande échelle. Mais vous, en tant qu'être humain, on trouve toujours un truc, on trouve toujours une manière de dire, ok, je vais faire ci, je vais faire comme ça. On trouve les solutions. Ceux qui ont eu leur tournage interrompu, je crois qu'il y a quand même est en train de se dessiner un peu un consensus pour qu'ils puissent au moins finir leur film. Je dirais que ceux pour qui c'était le plus compliqué, c'est soit ceux qui venaient de sortir leur film, De Gaulle, je crois, ils venaient vraiment de sortir et boum, ça s'est arrêté. Encore une fois, nous on était en troisième semaine, donc on n'a pas eu droit, disons, à notre fin d'exploitation, mais on a eu quand même 3 semaines d'exploitation, donc c'était, disons, un moindre mal. Ceux qui venaient de finir leur financement, qui allaient commencer à travailler pour eux, boum, tour point à zéro, parce que voilà. Oui, il y a des gens pour qui c'est plus compliqué que d'autres. Mmh. Et c'est vrai que quand ça s'arrête, il faut retrouver l'énergie, les choses. C'est toujours un peu un alignement de planète de faire un film. Il faut que les gens soient libres, ensemble, au bon moment, avec le bon désir, etc. Tout d'un coup, vos planètes s'alignent et puis blam, elles repartent dans tous les sens pour réaligner tout le monde. C'est compliqué, ouais.
Dans vos films, Michel Hazanavicius, il y a toujours un état de transition. Dans OSS 117, c'est un monde, le monde autour, l'espion qui est en train de changer. Dans The Artist, c'est le cinéma qui se met à parler. Dans Le Redoutable, c'est la métamorphose de Godard en cinéaste politique, après des films qui l'ont rendu extrêmement populaire. Dans Le Prince oublié, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence. Est-ce que vous pensez que nous vivons tous collectivement aujourd'hui une vraie période de transition, une vraie transition?
Vous voulez parler du Covid?
Oui, de cette époque, de cette période, ouais.
L'époque, oui, je crois. Après, c'est pas comme si c'était comme si ça avait stagné avant et qu'on allait stagner après. C'est-à-dire, je pense que la révolution est perpétuelle. On est tout le temps dans un état de transition qui nous amène à un autre état de transition, etc. Pour autant, je crois que la révolution numérique, l'ère digitale, je crois que c'est vraiment au moins aussi important que l'invention de l'imprimerie, c'est-à-dire de dématérialiser des œuvres, d'accéder à des puissances de calcul inimaginables il y a encore 20 ans, etc. Je crois que là, il y a quand même quelque chose une bascule. Énorme, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle, etc. C'est quand même de nouveaux mondes qui s'ouvrent à nous. Mais je vous dis, je crois que chaque époque a sa transition. Ça fait bien longtemps que les gens ne meurent plus dans le même monde que celui dans lequel ils étaient nés, en fait. Et ça fait longtemps que les gens... Oui, on est dans un monde et on meurt dans un monde qui n'a plus rien à voir, quoi. Donc les changements du monde sont ultra rapides, sont devenus ultra rapides, ouais. Mmh.
Est-ce que le cinéma français va quand même peut-être devoir acter certains changements qui se sont révélés avec cette crise? Est-ce qu'il sera aussi assez résilient, d'après vous, pour s'adapter, assez solide pour survivre à cette crise qui n'est pas terminée, hein, et dont on connaîtra aussi les conséquences par la suite?
Oui, je crois. Alors après, le mot résilient, je crois que c'est notre président de la République qui a employé ce mot-là. Il faut quand même être malade ou avoir un traumatisme lourd pour pouvoir être résilient. Je crois pas que ce soit le cas. La force du cinéma, en tous les cas, depuis l'après-guerre, a été de extrêmement bien se structurer et réussir à se penser à la fois comme un art et comme une industrie. Et donc, le cinéma a quand même réussi toujours à trouver des solutions et à s'adapter aux nouveautés technologiques qui étaient censées soit l'ébranler, soit même le tuer parfois, etc., etc. Je crois que le cinéma est en crise depuis à peu près son invention, voilà, depuis, disons, 1918, on va dire, pour laisser quelques années de répit au départ. Mais le cinéma est toujours en crise. Je crois qu'on va réussir à trouver. Après, ça, ce sera sans doute pas tout à fait pareil. Ce sera pas pareil qu'avant. Peut-être que la place de la salle de cinéma sera un petit peu différente. Je crois qu'on va être amené effectivement à acter l'idée que les grands diffuseurs sont américains et numériques aujourd'hui. Enfin, c'est une réalité. Et il va falloir que les gens qui fabriquent les films s'adaptent à ça, quoi. Et si vous voulez, moi j'essaie toujours de penser du point de vue des films. De pas penser du point de vue des diffuseurs, de pas penser du point de vue des exploitants ou quoi au caisse, mais du point de vue des films. Qu'est-ce qui est le mieux pour les films? Et donc voilà. Donc oui, je pense qu'il va falloir acter, la présence des grandes plateformes et que ça, que les gens qui fabriquent des films trouvent, si ce n'est leur avantage, leur place là-dedans. Ouais.
Parce que vous êtes le co-signataire d'une tribune parue dans Le Monde le 30 avril, Michel Hazanavicius, appelant le président à réparer cet oubli de l'art et de la culture, hein, qui sonne moins comme une supplique que comme un défi qui est lancé aussi aux autorités, à nos tutelles culturelles, réparer cet oubli, réparer un peu cet affront. Alors le mot est pas exactement de vous, c'est un mot collectif puisque c'est une tribune qui l'est aussi, mais on comprend aussi le besoin de se repenser en ce moment et soit de s'appuyer sur les fondamentaux, soit de penser ce qui peut être un peu une économie de crise pour le secteur du cinéma. On va écouter une voix que vous connaissez et que vous allez reconnaître, j'imagine, rapidement.
Il y a un peu un état de crise en France qui est très typique à la France, qui est un pays, il y a un état de crise dans l'industrie française et le cinéma qui est ce qu'on pourrait dire le joyau de cette industrie, qui en est un signe maladie. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui... La France ne sait pas très bien, je sais pas si... Les Français savent pas s'ils sont un grand peuple, s'ils sont bêtes, s'ils sont... Je sais pas, ils gagnent moins d'argent que les Allemands, ils travaillent moins bien que les Japonais, ils savent pas qu'ils ont le cinéma.
Voilà, les Français qui ne savent pas qu'ils ont le cinéma. Jean-Luc Godard, qui était la figure centrale de votre film Le Redoutable, ouais. Michel Hazanavicius, et qui parlait déjà, il y a une trentaine d'années, de cet état de crise permanent pour le cinéma français, en tout cas tel qu'il est vécu par les professionnels ou les acteurs du cinéma. Godard, qui est quand même un cinéaste extrêmement moderne, le premier à avoir intégré aussi le numérique dans le contenu même de son film, ce qu'on voit avec le livre d'images, son dernier film sorti en France, qu'il a pu réaliser, qui a recyclé des images existantes déjà, il n'en a tourné aucune nouvelle pour ce film. Ce grand détournement, vous l'aviez fait il y a une trentaine d'années, avec des dialogues, avec des images des autres, là encore, ça s'appelait La classe américaine. C'est un film qui est né de vos années Canal, Michel Hazanavicius, des années où vous étiez gagman, vous écriviez des sketchs pour la télé, et en 93, on vous propose de piocher dans le catalogue hollywoodien de la Warner, je crois, des scènes de films et de les assembler à votre guise pour réécrire une autre histoire où vous faites dire aux acteurs tout autre chose dans la voix de vraies doublures françaises. Alors après le film, le livre, dans quelques jours va paraître La classe américaine aux éditions Alary. Il va reprendre le scénario de ce film que vous avez réalisé avec Dominique Mézérette. Un film hyper potache et totalement underground, un film culte, mais, et c'est sa particularité, un film dont il n'existe aucune copie officielle. Pourquoi ce livre, Michel Hazanavicius? Vous aviez envie que cette aventure ne tombe pas aux oubliettes? Ou alors c'est elle peut-être qui ne veut pas non plus se faire oublier, qui trouve un moyen de laisser une trace?
En fait. Ouais, non, mais je crois pas que ça va tomber tout de suite aux oubliettes. Vous savez, c'est un film que j'ai fait, j'avais 25 ans, donc voilà, il y a bien longtemps. Et en fait, il ne se passe pas une semaine sans qu'on me parle de ce film, en gros. Donc, je sais pas tellement que j'ai peur que ça passe aux oubliettes. En vrai, c'est un peu un concours de circonstances. Je veux dire, on n'arrête pas de m'en parler de ce film, et plusieurs fois, des gens m'ont contacté pour me proposer de éditer le livre, faire des trucs, etc. Puis ça m'intéressait, enfin je voyais vraiment pas l'intérêt, etc. Je donnais complètement la permission aux gens qui voulaient le faire, de le faire pour leurs potes et tout ça, mais je voyais pas l'intérêt. Et puis là, en décembre, il y a un gars qui m'a envoyé, parce qu'il voulait le faire pour son neveu et pour lui, et donc il me proposait de m'envoyer une version, le texte du film, mais mis dans un bouquin façon les grands classiques Larousse. Et en fait, quand il me l'a envoyé, la couverture, j'ai trouvé ça vraiment marrant. Et je trouvais que de faire un détournement de grands classiques Larousse pour éditer les textes de la classe américaine, non seulement ça avait du sens, mais ça permet surtout autour de mettre plein de conneries, plein de voilà. Ce livre, c'est pas que le texte, c'est pas que le scénario, parce que ce scénario est complètement complètement débile, pour le dire simplement. Et donc, mais autour, voilà, il y a plein de petites conneries, plein de gags, plein de de choses marrantes à lire, quoi. Donc voilà, ça s'est fait un peu par hasard, et j'ai trouvé que c'était la bonne idée. J'ai trouvé que c'était enfin la bonne idée, voilà.
C'était quoi votre meilleure trouvaille pour ce film? Votre meilleure réplique, votre réplique préférée en tout cas?
Oh là là, j'en sais rien du tout. J'ai énormément de mal à...
Il y en a encore qui vous font rire aujourd'hui?
Mais alors, on m'a posé la question il y a deux jours. Il y a un truc qui me fait rire, mais c'est la manière dont le comédien a dit le mot. C'est vrai, il y a un moment donné où il y a un acteur qui dit, je voudrais aller dans une bonne auberge. Et il a une manière de dire auberge que je trouve super drôle. Voilà, même 30 ans après, ça me fait rire. Sinon, non, il y a plein de répliques, que les gens ont repris à leur compte, quoi. Ouais.
Donc, alors on va en écouter une, ou deux, ou trois, presque au hasard.
Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, à big ball. Alors comme ça t'as été élu l'homme le plus classe du monde. Laisse-moi rire, style le grand playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères. Sauf que moi je les baise, moi, les ménagères, non? C'est pas vrai?
Écoute-moi bien, mon petit José. Tu baisses les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Je te dis ça en qualité d'homme le plus classe du monde.
Hey, je t'arrête tout de suite. La classe, c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller. Rien de tel que d'aller chez Azedine à Laïa, ou même de s'acheter des soupules chez Yoji Yamamoto.
Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Tu dépenses tout ton argent dans les habits accessoires de mode, mais tu es ridicule. Enfin, si ça te plaît, c'est toi qui les portes. Mais moi, si tu veux mon opinion, ça fait un peu has-been.
Oh la vache! Moi, j'ai l'air has-been? J'en ai pour plus d'une barre de fringues sur moi. Alors va te faire mettre.
Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail et de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Bien, considère qu'on n'est plus amis, à Big Ball.
Là, dans l'extrait, c'était un détournement de quel film, de quelle scène? Il y a John Wayne qui incarne ce personnage.
Il y a John Wayne qui est... Ouais, alors je ne me souviens plus du film. Il est, il est capitaine d'un bateau. Et en fait, il y a par contre Le Pirate Rouge avec Burt Lancaster, qui est, voilà, c'est deux films totalement différents. Il y en a un qui est habillé en pirate et l'autre qui est habillé en années 50, et enfin contemporain de John Wayne, quoi. Et puis ils se parlent tous les deux, évidemment, normalement rien à voir, quoi. Mais alors, les gens qui connaissent un petit peu auront reconnu les voix des vrais doubleurs, qui sont Raymond Loyer pour la voix de John Wayne et Roger Rudel pour la voix de Burt Lancaster.
Et voilà. Et alors, c'est pas forcément ce film-là, un film qui restera dans les annales. Vous participez, vous, Michel Hazanavicius, à une autre aventure qui s'appelle la Cinéthèque, la Cinémathèque des réalisateurs, qui sont ou qui deviennent des réalisateurs prescripteurs. Vous avez, j'imagine, comme nous tous, vu ou revu pas mal de films pendant le confinement, des films que vous recommandez sur cette plateforme, la Cinéthèque indépendante, d'autres que vous allez peut-être nous recommander ici, s'il y en avait un à voir.
On m'a demandé, c'est vrai que là j'ai revu Gentleman Jim, qui est un film que j'adore et que j'ai montré à toute la famille et tout le monde a aimé, et ça m'a fait plaisir parce que des fois vous avez des films que vous adorez, puis Vous voulez les faire partager, ça se passe pas toujours bien, parce que les goûts des enfants, voilà, ça change. Mais c'est un film qui a vraiment pas bougé, c'est un film de Raoul Walsh avec Errol Flynn qui est au plus beau de ce qui, voilà, de sa forme. C'est un film sur un boxeur, qui s'appelle James Corbett, qui a vraiment existé, qui est le boxeur qui a inventé le jeu de jambes. Et c'est son histoire. C'est vraiment un film magnifique, quoi.
Et c'est un film qui nous dit quoi de vous, de vos goûts ?
Raoul Walsh est un réalisateur qui vient du muet. Et en fait, quand vous voyez son filmage, ça se sent. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont racontées par les images. Les dialogues ne sont pas là pour raconter l'histoire. Les dialogues sont là pour animer les personnages. Mais l'histoire se raconte autrement. Et c'est vrai que voilà, c'est un genre de cinéma que j'adore.
Et c'est un bon film à montrer aussi en ce moment aux enfants. Ça reste le récit d'un homme déterminé à avancer avec volonté et un humanisme aussi dans l'épreuve.
Et insouciance. C'est un personnage qui est complètement insouciant, qui va aller se battre contre l'homme le plus fort du monde. Et puis voilà, il craint pas du tout de perdre, en fait. Il est sûr que tout le monde l'aime, il est sûr que tout le monde... Il est assez magnifique, quoi.
On a appris la disparition de Michel Piccoli aussi, cette semaine. Un film avec lui, votre préféré, votre Michel Piccoli de cinéma.
Alors, c'est difficile, parce que sa filmo, c'est déjà un dictionnaire. Donc, entre Le Mépris et peut-être les films de Sautet, je dirais qu'il y a... Les choses de la vie, il y a quelque chose de très triste, mais peut-être Vincent François Paul et les autres, et puis Le Mépris quand même, parce que il disait un truc que je trouve absolument brillant pour un acteur, enfin que j'aime beaucoup, Michel Piccoli, il disait que quand il savait pas quoi jouer, il jouait le réalisateur. Et il disait comme ça, le réalisateur est toujours content. Alors ça, c'était un peu une blague, mais je trouvais ça assez malin sur l'idée de se dire que finalement l'acteur était un interprète. Et il essayait de coller comme ça au plus près de ce qu'était le réalisateur. Et quand on voit ce qu'il fait dans les films de Claude Sautet, il incarne vraiment Claude Sautet, et dans Le Mépris, il est vraiment Jean-Luc Godard. Donc voilà, c'est un très 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 grand acteur, ouais, Piccoli.
Dans la période actuelle, Michel Hazanavicius, le cinéma a un rôle à jouer, et il va en avoir un dans les semaines à venir.
Oui, mais c'est toujours en creux. C'est-à-dire, je crois qu'il faut pas attendre trop du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma n'apporte pas de réponse. Mais moi, je mets le truc un petit peu à l'envers. Je dis juste, essayons d'imaginer un monde sans cinéma, un monde sans film. Ce ne serait pas le même monde. Donc oui, il y a un rôle à jouer, mais peut-être comme disait un peu tout à l'heure Godard, c'est-à-dire peut-être que on le voit pas toujours ce rôle, il est pas toujours perceptible ou il est pas toujours clair, mais évidemment que c'est important, ouais, évidemment que c'est important.
Vous êtes aussi, vous dirigez l'école de cinéma La Fémis. On n'a plus le temps d'en parler, mais les cours vont reprendre ou pas là avant la fin de l'année?
Alors les cours ne se sont pas vraiment arrêtés. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place, virtuellement. Mais ce qui est, vous savez, c'est une école où on fabrique beaucoup, où on filme beaucoup. Donc malheureusement, c'est surtout ça qui s'est arrêté. Et ce qui est très dommageable, évidemment, pour les étudiants. Donc ça va être très compliqué à la rentrée de reprendre, d'essayer de rattraper le temps perdu, que les gens qui n'ont pas pu tourner puissent tourner, rattraper, etc. Ça va être une énorme gymnastique qui nous attend. Enfin, je dis nous, mais pour être tout à fait honnête, c'est vraiment l'équipe en place.
Dirigeante.
Notamment Nathalie Cosse-Cerdan, qui est la directrice de l'école. Moi, je suis président, donc si vous voulez, en tous les cas, dans une école, le président, il fait moins que les autres. Dans un gouvernement, j'en sais rien, mais dans une école, c'est comme ça. Et du coup, enfin, il est pas, voilà, j'ai pas les mains dans le cambouis, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais c'est une très belle école, la Fémis. C'est une très belle école.
Vous pourrez peut-être, comme président, dire, comme Emmanuel Macron, aux artistes, il va falloir enfourcher le tigre. Et ça vaudra aussi peut-être pour la Fémis. Merci beaucoup à vous, Michel Hazanavicius, d'avoir été avec nous. Merci pour cette analyse du moment et de nous avoir donné votre scénario pour ce monde nouveau.